Bonjour Marc Reynaud.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien et enseignant de mathématiques et vous êtes notamment connu pour avoir conçu un prototype qui reproduit la célèbre invention imaginée par le mathématicien et cryptologue britannique Alan Turing, invention communément appelée machine de Turing. Elle a été inventée donc en 1936 et a largement contribué à fonder l'informatique moderne en développant le concept d'algorithme. On y reviendra tout à l'heure. D'abord, pour commencer, j'aimerais revenir peut-être sur la personne d'Alan Turing. Est-ce que vous pourriez nous présenter qui il était et nous parler du contexte de création de cette machine?
Alors, Alan Turing est un jeune mathématicien qui a montré des capacités étonnantes très jeune. En même temps, il n'était pas un bon élève du tout, mais il avait en mathématiques, il a fait des choses très difficiles très très jeune. Alors, la machine de Turing, qui est issue donc de sa publication de 1936, qui s'intitule « Sur les nombres calculables avec une application au problème de la décision ». Il cherchait une réponse à des problèmes qui se posaient à ce moment-là, début du XXe siècle. On va parler de David Hilbert qui a posé en 1923 problèmes aux mathématiciens du XXe siècle. Tous ces problèmes, au moins la moitié, n'est pas encore résolue au XXIe siècle aujourd'hui. Et parmi ces problèmes, il y avait un problème qu'on appelait le problème de la décision et qui était « Peut-on trouver une méthode effectivement calculable pour décider ?» si un énoncé mathématique est valide ou pas. Et dans le livre de Turing sur les nombres calculables, on retrouve le même problème de qu'est-ce que c'est qu'un nombre calculable. Donc c'est ça le contexte dans lequel Turing a imaginé sa fameuse machine. Pour préciser, il y a aussi un autre qui est intervenu, c'est donc Gödel, le théorème d'incomplétude de Gödel, qui a montré à l'époque qu'en mathématiques, on ne pourrait pas tout démontrer. Voilà. C'est vraiment difficile, du genre « cette proposition est indémontrable ». Alors maintenant réfléchissez, est-ce que cette proposition est vraie? Est-ce qu'elle n'est pas vraie? Est-ce qu'elle est démontrable? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Voilà. Et puis on pourrait citer Bertrand Russell qui a posé différents problèmes en mathématiques dont l'un a été traduit en français de la façon suivante. « Dans une ville, un barbier rase tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. Que doit-il faire pour lui-même ? S'il ne se rase pas, il doit se raser puisqu'il rase ceux qui ne se rasent pas. Mais s'il se rase, il ne doit pas se raser puisqu'il rase ceux qui ne se rasent pas. » Voilà, vous ne pourrez pas dormir ce soir.
Alan Turing a donc imaginé sa machine en 1936, mais il a rejoint en septembre 1939 le manoir de Bletchley Park, quartier général des services de renseignement britanniques, pour briser le système d'une autre machine qui s'appelle Enigma. Qui a été mise en place par l'armée allemande. Il a été appelé à décrypter cette machine. Comment est-ce qu'elle fonctionnait? Comment ça se fait que la machine de Turing permettait de la décrypter?
Alors, votre question est très bonne, parce qu'il y a confusion entre la machine de Turing, qui, pour tout le monde, est le concept que Turing a imaginé en 1936 et qui n'a aucun lien avec le travail d'Alan Turing à Bletchley Park dans la U8 pour déchiffrer les messages allemands. Les messages allemands étaient codés avec une machine Enigma. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette machine Enigma existe depuis 1920. Que cette machine Enigma était dans le commerce. Vous pouviez acheter une machine Enigma comme vous achetez une machine à écrire. Et tout le monde a acheté des machines Enigma. Et les services secrets français ont acheté des machines Enigma, etc., etc. Ce qu'il y a, c'est que les Allemands ont complexifié régulièrement leur machine Enigma. Et donc, ils avaient un modèle pour l'armée qui était beaucoup plus complexe que le modèle qui était vendu dans le commerce. Voilà. Les premiers qui ont réussi à déchiffrer les messages allemands codés avec cette machine Enigma étaient des Polonais. En 1938, les Polonais déchiffraient les messages allemands codés avec la machine Enigma. Mais ils n'y arrivaient plus en 1939. Alors en 1939, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un Français qui est à l'origine de tout ça, qui a fait ce qu'il fallait. C'est un Français, Gustave Bertrand, qui a réussi à réunir les Polonais, les Français et les Anglais à mettre en commun leur méthode de déchiffrage pour travailler sur le déchiffrage des versions militaires de la machine Enigma. Et ce travail de Gustave Bertrand était très très important pour arriver à faire communiquer polonais, anglais, français. Il avait monté ce qu'ils appelaient le circuit XYZ, X pour Paris, Y pour Londres et Z pour Varsovie. Et c'est à partir de là qu'on a eu quand même les plus forts mathématiciens, les plus forts logisticiens pour travailler sur le déchiffrage de la machine Enigma. Alan Turing est allé les rejoindre à Bletchley Park.
Quel rôle il a joué du coup Alan Turing dans cette histoire-là? Parce qu'on dit que ce qu'il a fait a permis d'écourter la guerre de 2 ans. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il a pu trouver que les autres n'avaient pas vu avant?
Alors c'était très compliqué, mais en même temps il y avait différents endroits dans le monde où on travaillait sur le décodage. Les Américains ont travaillé beaucoup aussi sur le décodage de ce type de machine. Parce que la machine Enigma c'est plutôt un principe donc, qui a été utilisé un peu partout. Alors, la version militaire d'Enigma était très très difficile. Il y avait, on dit, je crois, 10 puissance 17 combinaisons, donc c'est assez énorme. Et il a fallu travailler. Alors, les Polonais avaient conçu en Pologne, en 36-37, une machine qu'on a appelée la bombe, qui était une machine électromécanique pour essayer rapidement un grand nombre de combinaisons. Cette machine a été ramenée à Londres et Alan Turing et son équipe, et puis un ingénieur aussi à Londres, je n'ai pas le nom là, ont travaillé pour améliorer cette bombe, pour la rendre beaucoup plus puissante. Et alors, le travail d'Alan Turing, ça a été le travail théorique de réflexion sur tout ça, avec ses collègues, réflexion sur tout ça, pour arriver à déchiffrer des messages qui étaient écrits avec une machine. Et tout le monde pensait que c'était absolument indéchiffrable. Les Allemands étaient persuadés qu'on ne pourrait pas déchiffrer leurs messages.
Si vous dites un mot de ce que je vais vous révéler, vous serez exécuté.
C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toutes leurs communications stratégiques.
Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable.
Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs.
Messieurs, je vous présente Alan Turing.
Nous allons devoir travailler ensemble. J'ai peur que ces hommes ne fassent que me ralentir.
Vous deviez être populaire à l'école.
Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant.
Pour pouvoir jouer le rôle du petit génie prétentieux, il faudrait déjà être un génie.
Vous pourriez nous aider, mais vous ne le faites pas.
Je ne suis qu'un mathématicien.
Parfois, ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien qui font les choses que personne n'aurait imaginées.
Venons d'écouter donc un extrait du film Imitation Game, un film réalisé par Morten Tildum, donc sorti en 2015 et qui rend hommage au personnage de Alan Turing. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous pouvez nous dire s'il retranscrit bien le fonctionnement et d'Enigma et la façon dont ces personnes ont travaillé?
Il y a eu plusieurs films. Bon, on va parler tout de suite d'Imitation Game. Bon, c'est un film américain, hein, hollywoodien, on va dire. Et dans ce film, alors, Alan Turing est le grand chef à Bletchley Park, le seul chef à Bletchley Park, etc. Bon, ça, c'est un peu exagéré. Ceci dit, ça montre assez bien le personnage. Il y a d'autres films, des pièces de théâtre. Il y a une pièce qui a été faite en 86, Breaking the Code, par un Anglais, qui était une pièce qui était bien faite sur la vie d'Alan Turing et son travail pendant la guerre. Et puis, actuellement, il y a la pièce de Benoît Solès, sur Turing, qui passe partout en France. Benoît Solès a eu des prix 3 ou 4 Molières de mémoire. Et d'ailleurs, Benoît Solès, je l'ai rencontré à Rambouillet. Ils m'ont demandé de présenter le prototype que j'ai construit en ouverture de la pièce de théâtre. Et ensuite, tout le monde est venu voir la machine et les acteurs aussi. Et puis ce soir, je vais passer à l'Espace des Sciences, un petit film qui a été fait par le CNRS, qu'on trouve sur Internet, qui est gratuit, etc., qui est ouvert à tout le monde. Un film de Catherine Berstein, de 32 minutes, qui donne une très bonne idée du travail d'Alan Turing.
Alan Turing qui a connu un destin tragique. Il a été poursuivi en justice en 1952 à cause de son homosexualité et a choisi pour éviter la prison la castration chimique par prise d'œstrogène. Il s'est ensuite suicidé en ingérant du cyanure en juin 1954. Ses travaux pour décrypter Enigma ont été reconnus que dans les années 1970 et la reine Elisabeth II le reconnaît comme héros de guerre et l'a gracié à titre posthume en 2013. Comment on explique que ses travaux n'ont pas été reconnus plus tôt ?
Alors, d'une part, tous les travaux de Bletchley Park étaient sous le secret militaire, c'est-à-dire le secret absolu. Turing avait signé comme quoi il n'allait jamais dire un seul mot sur ses travaux. il n'y a que depuis quelques années que l'on a accès aux documents de Bletchley Park. C'est tout récent. Mais j'ai rencontré à Roquencourt un militaire qui travaillait là-dessus et qui m'a dit que Turing était insupportable. Il était capable de taper ses rapports sur une machine à écrire avec un ruban qui n'a plus d'encre. Et quand il mettait une note à la main dans la marge, c'était totalement illisible. Mais l'explication première, c'est pendant 50 ans, le secret absolu sur tout ce qui s'est passé pendant la guerre.
Pour revenir à ses travaux donc sur sa machine de Turing, qui n'a donc rien à voir avec l'affaire Enigma, en quoi ces travaux-là ont préfiguré l'informatique moderne ?
La question de la calculabilité, c'était finalement la question de qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement mathématique ? Finalement, est-ce qu'on pourra décomposer un raisonnement complexe en éléments simples ? Et donc, il a travaillé sur la définition de ce qu'est un algorithme. Bon, alors, le mot algorithme est maintenant un mot à la mode. Quand quelque chose ne va pas, c'est la faute de l'algorithme. Hein. Quand un étudiant n'arrive pas à trouver sa place à la fac, c'est la faute de l'algorithme. Voilà. Mais donc, il fallait définir ces fameux algorithmes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement pour faire des calculs et des raisonnements à une machine. Donc, il fallait lui donner des instructions sous forme d'une suite d'algorithmes.
Et donc vous avez reconstitué cette machine de Turing. C'est d'ailleurs la seule qui fonctionne réellement dans le monde. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de reconstituer cette machine-là ?
D'après Saint-Exupéry, le fils normalement demande à son père « Papa, dessine-moi un mouton ». Ben moi, le mien m'a dit « Papa, fais-moi une machine de Turing ». C'était donc en 2013 sur une plage à Noirmoutier au mois de juillet. Et je l'ai construite, je venais de prendre ma retraite. Et je l'ai présentée mi-décembre à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Donc elle a été construite en 4 mois et demi. J'ai eu des petites choses après à mettre au point, mais enfin l'essentiel était fait en 4 mois et demi. Voilà, à demande du fiston.
Et donc vous avez utilisé les mêmes technologies dont il disposait dans les années 30-40 ?
Oui, j'ai utilisé les technologies des années 30, à savoir les circuits électromécaniques. Il n'y a pas d'électronique du tout. Et c'est une chose un peu étonnante. En 2012, c'est le centenaire de la naissance d'Alan Turing. Donc en 2012, de nombreuses universités ont décidé de construire un prototype qui représente le concept de Turing. Mais toutes ces universités, aucune ne l'a fait avec les technologies de l'époque. Et c'est un peu dommage parce que les technologies de l'époque s'adaptaient très bien au concept imaginé par Turing.
Et donc vous aviez fait quelques améliorations ensuite en changeant, il me semble, les rubans linéaires pour des rubans circulaires, c'est ça ?
Alors, bon, la machine de Turing, telle que Turing l'a décrit, utilise un ruban infini. Donc dès le départ, on ne peut pas la construire. Donc ce que tout le monde a construit, moi aussi, on a construit des prototypes qui représentent un peu ce principe abstrait. Il se trouve que celles qui ont été construites avec un ruban en ligne droite. Ben, c'est très gros, c'est énorme, c'est compliqué à déplacer. Moi, je me suis permis une chose, j'ai replié le ruban sous forme d'un disque. On se rapproche un peu quand même parce qu'un disque, ce n'est pas infini, j'ai 100 cases, donc c'est comme je dis le nombre, c'est fini. Mais c'est illimité parce qu'on peut se déplacer indéfiniment le long du bord du disque.
Parce que donc la machine de Turing, c'était une idée abstraite, quelque chose qu'il avait créé, mais elle n'a jamais pris forme réellement de son temps.
J'ai écrit récemment un petit article dans une revue là. J'ai écrit « La machine de Turing n'a jamais été construite, mais on s'en sert tous les jours ». C'est parce que nos informaticiens, et notamment je pense à l'INRIA, à Roquencourt et à d'autres lieux, qui travaillent sur la sécurité des systèmes informatiques, sont capables d'utiliser un concept abstrait pour faire des travaux d'informatique. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir un objet matériel qui soit la machine de Turing. Mais dans le film là, qui est du CNRS, ils montrent bien des gens qui travaillent sur la sécurité informatique et qui nous disent qu'ils prennent comme attaquant pour vérifier la sécurité des codages qu'ils ont imaginés, ils prennent comme attaquant une machine de Turing, mais la machine théorique.
Après la guerre, Alan Turing a participé au débat sur la possibilité d'une intelligence artificielle en développant le test de Turing. Test censé donc mesurer le niveau d'intelligence d'un robot. Comment est-ce que ça fonctionne et en quoi c'est en lien avec ses travaux précédents ?
Alors ça, c'est vieux, ça. À partir du moment où on peut donner des instructions à une machine, la machine va donc faire un travail. Et la question se pose à ce moment-là de l'intelligence d'une machine. La première personne qui a fait un travail d'étude comment donner des instructions à une machine, la première personne au monde qui a fait ça, l'a fait avec un mathématicien qui s'appelait Charles Babbage et qui a imaginé une énorme machine purement mécanique. Elle, c'était au début du 19e siècle, en 1830-1840, pardon. Et cette personne, c'est une femme, c'est Ada Lovelace. Et un siècle après, en son honneur, Honeywell Bull a développé un langage de programmation qui s'appelle le langage ADA. Alors, le test de Turing au niveau de l'intelligence artificielle, c'est l'idée que quelqu'un est dans une pièce, pose des questions et il reçoit des réponses. On peut imaginer qu'il reçoit des réponses imprimées, par exemple, et il pose les questions à travers un clavier. Et en recevant les réponses, il doit essayer de déterminer est-ce que c'est un ordinateur qui m'a répondu ou est-ce que c'est un être humain. Alors Turing, c'est très surprenant à imaginer dans les années 50, hein, donc bon, il y a 70 ans déjà, il a dit dans 50 ans, la machine pourra tromper 50% des gens pendant 5 minutes. Je crois que c'est à peu près vrai. Mais alors, voilà, la question de l'intelligence artificielle s'est donc posée depuis la machine de Babbage et ensuite, dans les années 40-50, dans les premiers ordinateurs, parce qu'on pouvait donner des instructions à un ordinateur qui était ensuite capable de faire un travail. Alors au début, ça c'est très ancien, il pouvait faire une addition, mais après il pouvait faire des calculs statistiques, après il pouvait faire des calculs très compliqués en mathématiques sur des polynômes ou des choses comme ça, et de plus en plus complexes. Donc, à un moment donné, la machine fait des choses que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Donc, le mot intelligence artificielle, la question commence à se poser. Il est clair que, a priori, le cerveau est encore des milliards de fois plus puissant et plus rapide qu'un ordinateur. Mais néanmoins, on a maintenant des systèmes qui ont l'air de traduire à peu près l'anglais en français, à peu près. C'est déjà des signes comme quoi l'informatique va assez loin. Et il est vrai aussi que je suis fortement impressionné par la vitesse des progrès de l'informatique en capacité de calcul, en capacité, en vitesse, etc. Et on a l'impression que ça ne fait que s'accélérer. Donc on peut imaginer que dans peu de temps, on aura des machines qui vont vraiment nous surprendre.